Chapitre deuxième. Le numéro, comme disait Nériel, après Mademoiselle Morange, dans le langage professionnel des dancing, était une espèce de ballet à deux, donné à titre d'attraction les jours où le directeur du palace convoquait ses hôtes à une réunion appelée, professionnellement aussi, thé dansant. Les deux artistes mettaient leur point d'honneur à exceller dans ces fantaisies qu'ils composaient le plus souvent eux-mêmes, sur quelques partitions en vogue. Quand à 5 heures ce jour-là, ils se retrouvèrent dans le vaste hall, lui, svelte et mince, dans son veston cintré, elle, costumée pour ce numéro, mais enveloppée d'une mante, ils avaient oublié, à prendre et à reprendre tout l'après-midi les figures de leur ballet. Lui, ses soupçons sur les sottises possibles de Gilbert Favy, elle, ses aigreurs de la matinée. Un orchestre installé sur une estrade au fond parmi des verdures avait, dès leur entrée, attaqué un de ces airs de tango, cher à la sentimentale Renée Favy et méprisé par la sportive Miss Oliver. Les murs de l'immense salle, plus longues que larges, se paraient d'énormes têtes de pierrot en étoffe blanche suspendues entre les lampes électriques voilées de bleu, de jaune et de rose. Des tables étaient disposées tout autour, où déjà les clients de l'hôtel prenaient qui du thé, qui du porto, qui un cocktail, qui un whisky au soda, tandis que les groupes des danseurs commençaient de se trémousser dans l'espace laissé libre au milieu. La rumeur des causeries se mêlait au bruit des instruments, piano, violon et cuivre. Tout ce monde, 200 personnes peut-être, parlait anglais, buvait anglais, dansait anglais. Ici, deux jeunes filles taillées en athlètes, comme cette robuste Miss Oliver, tournaient ensemble et s'essayaient au cortège. Elles marchaient de ce pas fléchi en avant, léger, un peu hésitant, et leur couple en frôlait d'autres, étrangement disparates ici, un enfant de 14 ans, conduite par un sexagénaire, plus loin, une femme âgée au bras d'un garçon de 20 ans. Dans ce pêle-mêle britannique, les têtes grises, plus nombreuses que les têtes brunes ou blondes, témoignaient d'une forte race où l'entraînement physique se prolonge indéfiniment. Le tout faisait une foule ondoyante et mouvante qui s'animait au rythme des sauteries exotiques, énumérée à la fin de sa leçon par Renée Favy. Elle-même était là, se tenant auprès de sa mère, invitée par l'un, par l'autre, et calculant avec une impatience que ses regards étaient auprès de trahir, la minute où Nériel viendrait la prier. Il devait, par profession, servir de cavalier aux dames qui n'en trouvaient pas. Tout de suite, tandis que Mademoiselle Morange, assise à l'écart à cause de sa tenue d'opéra, attendait le tour du numéro, il avait entraîné celle-ci, puis celle-là, dans des foxtrots, des chimées, des valses lentes et les autres danses répétées le matin avec son élève préféré, qu'il était venu inviter enfin. Sa façon de conduire sa danseuse variait avec chacune, modérant les trop vives, activant les trop lentes, si bien que toutes, revenues à leur chaise, ne tarissaient pas d'éloge. « Je ne sais pas pourquoi, » disait l'une, « c'est si reposant de danser avec lui. » Et cependant, il ne vous laisse pas faire une faute. « Voilà, c'est un gentleman, » répondait une autre. « Il n'abuse pas. »« Oui, on n'a pas besoin de freiner avec lui, » disait une troisième. « Il sert de bien près cette petite mademoiselle Favy, tout de même, » reprenait une quatrième. « Regardez-les. » Et les propos de continuer, avec des rappels de turf et de vie cosmopolite. « Ils font une jolie paire, à eux deux, et bien du même pied. » Vous seriez très étonné si cela finissait par un mariage. Un danseur de palace et la fille d'un colonel, y pensez-vous? Pourquoi pas? Il n'y a pas de saut métier d'abord, et par le temps qui court, celui-là est plus sûr que celui de rentier. Un colonel? Mais à Biarritz, le danseur mondain du palace qui s'est marié en fin de saison était un prince russe. Comme elle le regarde. Elle est folle de lui, tout simplement. Ah, si j'étais sa mère. « Vous venez de dire vous-même qu'il est très convenable. »« Il n'en est que plus dangereux. »« Mais ce fox est fini. »« L'orchestre s'arrête. »« La lumière baisse. »« Ça va être le numéro. »« Vous avez vu le programme ?»« C'est le même que celui d'il y a 15 jours et que l'on a redemandé le printemps. » Il se faisait un apaisement des bois maintenant, qui se changea en un silence attentif, coupé de battements de mains, quand Nériel et Mademoiselle Morange parurent à l'extrémité de la salle. Elle avait quitté sa mante, et elle s'avançait, souriante, un peu intimidée dans sa toilette de théâtre, en jupe bouffante et courte, d'une étoffe lamée d'argent, brodée de petites roses et de feuillages de ton clair, les bras et les épaules nus. Des bas de soie de couleur de chair moulaient ses fines jambes. Les garçons de l'hôtel disposaient des touffes de fleurs de place en place, et l'orchestre ayant préludé, elle commença d'aller chercher ses bouquets l'un après l'autre en dansant. Elle se baissait pour prendre la gerbe, poursuivie par son camarade qui, dansant aussi, l'atteignait sans cesse, et sans cesse elle s'échappait, lui laissant aux mains tantôt une branche de mimosa, tantôt une brassée de roses, de grands iris blancs ou sombres, des œillets rouges ou safranés, des narcisses. C'était toute la fête du printemps méridional qu'elle lui offrait chaque fois, en se dérobant elle-même, et chaque fois il revenait, toujours en dansant, déposer ses gerbes au pied d'une statue de l'amour, en terre cuite, dressée au bas de l'orchestre, jusqu'au moment où, toutes les fleurs ayant été ainsi ramassées, la jeune femme se laissa elle-même enlever, fleurs vivantes, retroportée jusqu'à cet hôtel symbolique, entre les bras du ravisseur, à qui elle disait tout bas, la tête abandonnée sur son épaule, « C'est elle qui est jalouse maintenant, regardez-la, et repentez-vous de jouer avec cet enfant. » Tandis que les applaudissements éclataient et que les danseurs, en se donnant la main à présent, saluaient la foule, Nériale pouvait voir, au tout premier rang, Renée, assise avec sa mère, et ses petites mains, qu'elle frappait l'une contre l'autre, découvrait en s'écartant un visage péniblement contracté où se révélait la souffrance ingénue d'une sensibilité trop tendre. De voir Nériale soulever contre lui, dans un geste d'amour mimé, sa jolie et souple camarade, avait suffi pour que son cœur, qui s'ignorait lui-même, subit un spasme inconscient, et dans les yeux de Nériale brillait cet éclair de fatuité, inconsciente aussi, de l'homme qui se sent aimé, quand tout à coup ce regard s'éteignit. Son visage avait pâli, ses doigts se crispaient involontairement sur ceux de la danseuse. Celle-ci se dégagea, et attribuant cette étreinte à une irritation causée par sa remarque. « Ce n'est pas une raison pour me faire mal, » protesta-t-elle, « parce que je vous dis la vérité. »« Pardon, » balbutia-t-il, et soudain elle le vit avec stupeur, se détacher d'elle, longer l'estrade où l'orchestre préludait vivement à une nouvelle danse. Déjà il était hors de la salle, sans que personne eût pu s'apercevoir de ce hâtif départ, sinon celle qui courait instinctivement après lui pour le supplier. « Nériale, » implorait-elle, « mais je regrette. Laissez-moi, » répondait-il, « vous m'excédez. » Et, la repoussant d'un geste, il entra dans la cage de l'ascenseur, qui commença de monter, tandis qu'elle restait devant la porte, brusquement refermée, à se dire « Je suis trop sotte, mais qu'est-ce qu'il a eu ? Cela ne lui ressemble pas de se fâcher pour une taquinerie. Il n'est pas souffrant. Il était en forme tout à l'heure et si allant. Comme il m'a parlé, ah, les hommes. Quand on court après eux, ils deviennent aussi roses que les femmes. Il n'est toujours pas là en ce moment à faire danser cette petite Favie. » La pauvre fille aurait été très mortifiée et plus étonnée encore si elle avait su combien sa sotte phrase de coquette dépitée était étrangère à cette fuite inopinée du danseur hors de la salle où l'on venait une fois de plus de l'applaudir frénétiquement. À la minute où il regardait René, lui-même s'était vu regarder par un vieillard, un nouvel arrivant dans l'hôtel, et qui venait de s'asseoir à la même table que ces dames Favie. Cette rencontre de leurs yeux avait suffi pour que Nériale ne pût physiquement rester 5 minutes de plus dans la même pièce que ce personnage. Cette seule présence lui avait infligé une de ces foudroyantes secousses de terreur, où l'homme ne se connaît plus, ne raisonne plus. Un réflexe animal de défense se déclenche en lui, aussi aveugle et aussi irrésistible que le galop d'un cheval emballé. Tel était ce trouble du jeune homme quand, pressant le bouton de l'ascenseur, il n'avait pas pris garde aux chiffres de l'étage, si bien qu'il se trouva s'arrêter au premier, tandis qu'il occupait une chambre au troisième. La distribution des pièces étant pareille dans tout l'hôtel, il alla jusqu'au bout du couloir, ouvrit une porte qu'il crut la sienne, et s'apercevant de son erreur, il ressortit aussitôt, juste à temps pour voir, au bruit du battant refermé, s'éloigner rapidement quelqu'un. Il crut reconnaître Gilbert Favie, dont ce n'était pas l'étage non plus. Que faisait-il là? Après leur conversation du matin et dans toute autre circonstance, cette allure clandestine du frère de René aurait inquiété Nériale. Il l'aurait interrogé. Au lieu de cela, il s'échappa lui-même du côté opposé, par l'escalier de service dont il montait les marches 4 à 4, pour se réfugier dans sa chambre, la vraie cette fois. Et il se jetait sur son lit, en se prenant la tête dans les mains et disant à voix haute « Jaffeux, c'était Jaffeux. » Et il connaît ces dames favies. Elles l'avaient fait asseoir à leur table. Elles vont savoir. Il ne leur a pas encore parlé, sinon elles n'auraient pas applaudi. Pourtant, si j'allais le trouver tout à l'heure, si je lui disais « C'est vrai, c'est moi, Pierre-Stéphane Bertin. Depuis ce qui s'est passé, je n'ai plus volé, je n'ai plus joué. J'ai gagné ma vie comme j'ai pu, mais proprement. Renseignez-vous, faites une enquête. » À quoi bon? Il a été si dur pour moi. Il doit tant me mépriser avec ses idées, et davantage en me retrouvant ici, dans un métier qu'il ne peut pas comprendre. C'est trop naturel, étant l'homme qu'il est, si droit, si juste, si traditionnel aussi. Mieux vaut partir, payer mon dédit et ne pas le revoir. Dire qu'en ce moment il est en train de tout raconter. Qu'est-ce que va penser de moi cette petite Renée, si naïve, si tendre? Je savais bien que c'était fou, que je ne devais pas l'aimer. Et je ne me le permettais pas, mais elle me plaisait tant. Cette gentille amitié m'était si douce. La quitter pour toujours, c'était déjà bien triste. Et qu'elle pense de moi ce qu'elle va en penser, ce qu'elle en pense. C'était convenu qu'après le numéro, nous dansions ensemble. Elle ne m'a plus vu. Elle s'est enquise. J'entends Jaffeux leur dire, à elle et à sa mère, « Voulez-vous savoir pourquoi ce joli monsieur a disparu ?» Et le reste, « Ah, c'est affreux !» Se prononçait-elle cependant ces paroles, dont la seule possibilité affolait le jeune homme? Il le croyait, hanté par cette obsession du déshonneur, constante chez tous les coupables, qui ont, dans une heure d'égarement, commis un acte irréparable, quand cette faute ne ressemble pas à l'arrière-fond de leur nature. Il ne se doutait pas que ce témoin de son passé, et qui, tout de suite, avait reconnu dans le Nérial acclamé du palace le malheureux Pierre-Stéphane Bertin d'autrefois, était à cette minute aussi tourmenté que lui-même. Le nom de Marcel Jaffeux évoque pour tous ceux qui suivent d'un peu près les choses du palais un des plus nobles types de cette carrière d'avocat, si salutaire ou si dangereuse à la moralité de ceux qui la parcourent avec succès, selon l'usage qu'ils font de leur éloquence. Cette profession repose tout entière sur ce principe qui en est comme la mystique. Chaque accusé a le droit d'être défendu. Marcel Jaffeux aurait été un des maîtres du barreau, qui complète cet axiome par une précision bien nécessaire. Oui, chaque accusé a le droit d'être défendu, mais dans la vérité. C'est dire que, durant ses 35 ans de service, avant que sa santé ne le contraignît à se retirer ou presque, il n'a jamais plaidé une cause qu'il ne considéra comme juste. De telles rigueurs de conscience font de ceux qui les pratiquent, avec l'âge avançant, des scrupuleux. Aussi bien était-ce le commencement d'une crise d'anxiété que venait de donner au célèbre avocat cette inattendue rencontre avec un garçon, perdu de vue depuis plusieurs années, et dans la destinée duquel les circonstances de son propre caractère lui avaient fait jouer le rôle d'un implacable justicier. Jaffeux s'était arrêté à Hyères et au Médès Palace, sur la foi d'un guide, pour se reposer quelques jours, en route vers Nice et l'Italie. Arrivé cet après-midi, et regardant sur le tableau ad hoc la liste des voyageurs, il y avait lu le nom de Madame Favy qu'il connaissait, ayant plaidé jadis avec succès, pour le colonel, un important procès d'héritage. Presque aussitôt il l'avait aperçue dans le hall avec sa fille. Elle l'avait conviée à prendre le thé avec elle à 5 heures. « Prévenez Maître Jaffeux que c'est à un thé dansant que vous l'invitez, » avait dit René Favy. « Pourvu que je ne sois pas obligé de danser moi-même, » avait-il répondu en riant. « Je suis d'ailleurs du temps de la valse et de la polka, et ces danses modernes. Vous ne les avez pas encore vues danser par M. Nérial? C'est le professionnel du palace. Avec lui, elles prennent leur vrai caractère de souplesse et de grâce. Papa lui-même se réconcilierait avec le tango et le foxtrot, si on les dansait ainsi devant lui. Et vous savez s'il est sévère. » Mais je croyais qu'il était venu ici, fit Jaffeux. Oh, pour 24 heures, dit la jeune fille. Et il nous a emmenés, maman et moi, tout l'après-midi au Mont des Oiseaux, pour y hiberner avec des camarades. habitué par son métier à observer et à interpréter les moindres détails d'une physionomie, quand il questionnait un client, M. Jaffeux avait remarqué la lueur d'enthousiasme dont s'éclairaient les prunelles bleues de la jeune fille, tandis qu'elle célébrait les mérites du danseur. Cette excitation contrastait trop avec sa réserve accoutumée. Il est vrai qu'il ne l'avait jamais vue qu'en présence de ce père, dont lui-même blâmait secrètement la trop opprimante sévérité. Comment s'étonner que l'existence plus libre à l'hôtel et dans le midi détendît un peu les deux femmes. Il n'avait donc pas attaché de signification particulière à cet indice, non plus qu'à l'insistance avec laquelle, et comme il déclinait l'invitation sous le prétexte de lettres à écrire, René lui avait dit « Ne venez qu'à 6 heures, c'est le moment du numéro ». Et après lui avoir traduit ce terme argotique, « La levée du courrier se fait à 6h15, le vôtre sera fini. Il faut que vous voyiez danser M. Nériel. Venez, venez, je le veux. » Eh bien, je viendrai. » Il était venu, pour demeurer stupéfait, en reconnaissant Pierre-Stéphane Bertin dans ce Nériel, dont René Faville lui avait parlé ainsi, et dont elle suivait du regard les mouvements avec une émotion plus révélatrice encore. Il voyait ce jeune et frais visage se pencher en avant, ses lèvres frémissantes s'ouvrir, un sourire d'admiration s'y dessiner, puis un involontaire frémissement les crispait, quand le danseur avait enlevé la danseuse d'un geste qui simulait une étreinte de passion heureuse. « Mais elle est prise de lui, la pauvre enfant, » pensait Jaffeux, « et la mère qui n'y prend pas garde. » Madame Favy, en effet, accompagnait le spectacle de commentaires et logeait aussi, mais bien froid en comparaison de ceux de sa fille. Se jouerait-il un drame ici ? Se demandait déjà l'avocat, mis aussitôt en éveil par sa longue expérience des dangereux dessous de la vie, et interrogeant la mère. « Vous le connaissez personnellement, ce monsieur Nériel ?»« Mais oui, c'est un bon camarade de Gilbert, et René prend des leçons avec lui. Il est si comme il faut, si bien élevé. C'est un garçon de bonne famille, sans doute. Sa boutonnière rappelle qu'il a fait bravement son devoir pendant la guerre. Vous comprenez que je ne l'ai pas questionné. J'ai cru comprendre qu'il est orphelin et qu'il a eu des revers de fortune. Il a pris une drôle de profession, mais aujourd'hui... » Une phrase vint à la bouche de Jaffeux qu'il ne prononça pas. La sagesse, il le savait trop, veut que l'on agisse avec lenteur dans toutes les situations compliquées. Apprendre à la mère aussitôt la véritable identité de Nériel, c'était risquer une catastrophe. Peut-être si par malheur cet aventurier, évidemment il en était devenu un, avait séduit la jeune fille. Mais non. Il étudiait René avec l'attention pénétrante dont ses yeux de compulseur de dossier révélaient l'habitude. Quelle acuité dans leurs prunelles, détachées en noir sur son maigre visage rasé, dont les rides profondes semblaient creusées par la réflexion. Et il se répétait mentalement. Mais non. Cette physionomie si claire, si virginale, ne peut pas mentir. La naïveté même de cet enthousiasme en prouve l'innocence. L'imagination seule de cette pauvre enfant est prise. Celui qui la trouble connaît-il seulement l'intérêt qu'il inspire? Ou bien serait-il aujourd'hui un profond scélérat? Et voyant cette exaltation d'une fille riche, aura-t-il conçu le projet de l'épouser en s'imposant aux parents par le procédé classique? Là encore, l'expérience du basso-chien entrait en jeu. Il se rappelait avoir été récemment consulté par un de ses clients à l'occasion d'un enlèvement sensationnel dans le grand monde et avoir conseillé le mariage. Était-ce par rouerie alors que le danseur mimait ses figures du printemps en affectant de ne s'occuper que de sa partenaire? Car le ballet s'achevait, sans qu'il eût, une seule fois, regardé dans la direction de celle qui le regardait, elle, si passionnément. Jouait-il cette apparente indifférence pour la rendre jalouse? Ce regard était enfin venu, mais pour rencontrer un autre regard, celui de Jaffeux. Sur quoi le bouleversement du jeune homme s'était traduit par l'altération de ses traits et cette soudaine disparition dont René demeurait étonné. Elle aussi l'avait vu se glisser le long de l'estrade vers la porte du fond. « Il va certainement reparaître, » avait-elle dit. « Il m'a promis de me faire danser le oupa oupa. » Puis, quelques minutes plus tard, revenant elle-même de foxtrotter avec un autre jeune homme qu'elle avait interrogé sur l'absence de Nériel, il s'est senti un peu souffrant, m'a-t-on dit. Ce n'est pas étonnant, il se surmène. Il fait danser toutes les dames qui, sans lui, ne danseraient pas. Et pour chacune, il prend autant de peine. Il est si bon. « Le gaillard n'est pas plus souffrant que moi, » avait pensé Jaffeux. « Il m'a reconnu, tout simplement. Ah, j'empêcherai bien qu'il ne perde cette délicieuse fille, s'il en a eu l'affreuse idée. Mais l'a-t-il eu ?» Ce point d'interrogation impliquait dans l'esprit de ce juste une incertitude sur la nature intime d'un garçon qu'il avait vu commettre une action très coupable. Il l'avait, à cette époque, jugé très sévèrement. Mais cet acte révélait-il une démoralisation foncière? Ou bien n'était-ce qu'une défaillance d'une heure et qui permettait d'espérer un redressement? N'eût-il pas mieux valu, dans ce cas, sinon pardonner au coupable, du moins le plaindre, lui parler sans dureté, ne pas risquer de le désespérer par une implacabilité peut-être inique? Cette question, l'avocat se l'était souvent posée, avec une inquiétude parfois voisine du remords. Il se la posait, ou mieux, elle se posait devant lui plus fortement encore, remontée dans sa chambre où il avait commandé son dîner sous le prétexte de la fatigue du voyage, en réalité pour réfléchir, hors de la présence des deux femmes, sur le parti à prendre.